Merci Camille Magnard. Alors, c'est vraiment amusant que vous terminiez avec cette panne électrique puisque nous sommes en compagnie de Bruno Latour. Bonjour Bruno Latour. Bonjour. Vous êtes un grand sociologue, anthropologue, traduit dans énormément de langues, lu un peu partout dans le monde, et vous avez notamment beaucoup travaillé sur la technique, sur l'écologie. J'aurais aimé avoir votre sentiment sur cette panne électrique, une panne électrique où, comme l'a dit Camille Magnard, il y a un certain nombre de suspicions sur des erreurs en chaîne, mais on ne comprend pas encore très bien comment elle a pu être à ce point importante. Votre réaction comme sociologue et penseur de la technique, Bruno Latour?
Malheureusement, je ne sais rien sur cette panne directement, mais la sensibilité que nous avons tous, à la, comme vous l'avez dit fort justement, à la fragilité des dispositifs techniques, ce que maintenant les géologues appellent la technosphère, est très importante. Et c'est ce qui est intéressant, c'est que on voit bien dans la situation actuelle que la technosphère est tellement lourde que finalement on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Si on voulait modifier un système technique aussi important que celui de l'électricité, on voit qu'il faudrait changer une multitude d'éléments qui sont tous liés, donc qui font système en quelque sorte. Donc la question technique est au cœur de la question écologique, parce qu'il va falloir pouvoir innover à tous les points de ce système, et un système, ça a précisément des cohérences qui sont très difficiles à modifier. On le voit quand le passage entre voiture électrique et de la voiture à combustion interne à la voiture thermique, on le voit dans le passage de l'électricité atomique d'origine atomique à l'électricité d'origine solaire, etc. Donc en fait, on fait une expérience collective très passionnante à chaque fois qu'on regarde une question technique, parce que ça nous lie tous ensemble. Donc on est lié par la technique, c'est vraiment un des liens sociaux les plus importants. Mmh. Mais on ne sait pas trop comment le changer, parce que les décisions qui ont été prises sont des décisions qui engagent l'avenir sur 100 ans.
Est-ce que ça veut dire que finalement, dans la technique telle que vous l'avez pensée, Bruno Latour, il y a surtout de la sociologie, surtout en fait des interactions entre les hommes avant même qu'il y ait des dispositifs, des outils, des machines?
La technique et la société, c'est l'envers et l'avers de la même pièce. On peut décrire exactement la même chose. D'ailleurs, vous êtes en train de parler devant un dispositif technique à Radio France qui est d'une extrême complexité. On parle grâce au fait qu'il y a des techniciens qui sont là. Si on devait faire la description en séparant les aspects sociaux, disons, syndicats, feuilles de paye, droits, standards, les standards sont très importants, de la partie, disons, soi-disant matérielle, on aurait beaucoup de peine. Donc, dans la tradition dans laquelle je suis, décrire la société ou décrire les techniques, c'est en fait on tire un fil et on trouve l'autre. Donc c'est un peu la même chose. Et évidemment, du coup, ça pose le même problème pendant la crise écologique. C'est-à-dire, redécrire la crise écologique, c'est aussi redécrire comment on pourrait modifier d'une certaine façon les dispositifs techniques. Sachant que les dispositifs techniques, c'est un travail fait par l'Anthropocène, le groupe de l'Anthropocène il y a 2 ans, c'est 1000 fois plus en poids que les humains. Ce qui est un résultat assez amusant. C'est-à-dire, si vous prenez le poids des humains, il faut 1000 fois plus pour avoir le poids de nos dispositifs techniques. Maison, terre transformée, etc., etc. Donc, ça nous donne l'idée de notre ignorance aussi sur le monde social. C'est-à-dire que les sociologues s'intéressent beaucoup aux humains, et ça c'est important de s'intéresser aux humains, mais il y a 1000 fois plus de dispositifs, du moins dans les sociétés industrielles, qu'il faudrait pouvoir prendre en compte.
Mais alors, est-ce que ces dispositifs, justement, ils ont pris leur autonomie aujourd'hui, Bruno Latour? Est-ce que la technique est devenue tellement importante dans nos existences que, au quotidien, ou finalement avec cette crise écologique, on se rend compte que l'on a du mal aujourd'hui à la maîtriser?
Ils sont pas autonomes, mais beaucoup de gens ont intérêt à leur donner une autonomie qui fait que les décisions du futur sont engagées par des décisions du passé. Et donc évidemment, on le voit bien, que ce soit sur les questions des pesticides, les questions de l'électricité, les questions des bâtiments, on vit sur des décisions qui sont des décisions prises depuis une cinquantaine d'années et qui vont courir encore sur une cinquantaine d'années. Et ça, c'est un énorme problème. Parce que ça veut dire que notre avenir, en quelque sorte, est déjà déterminé et rend très difficile les marges de manœuvre. Il y a eu d'autres crises écologiques dans le passé. Il y en a une très célèbre il y a 12 000 ans, le Young Dryas. Les humains de l'époque, tout à fait Homo sapiens d'ailleurs, se sont adaptés. Simplement, ils ont bougé, ils ont changé d'endroit, etc. Ils n'ont pas eu un énorme problème de prendre des décisions concernant une transformation climatique très profonde. Nous, c'est beaucoup plus difficile. parce que la technosphère engage l'avenir d'une façon telle, c'est des décisions faites par des compagnies, faites par nous, par tous les citoyens et les consommateurs, et ça diminue notre marge de manœuvre. C'est particulièrement clair dans le cas de l'automobile, que tout le monde voit bien la difficulté de changer, ça veut dire changer la totalité. Parler de voiture autonome, ça veut dire changer d'innombrables aspects.
Pourquoi ? Expliquez-nous.
Parce qu'il faut changer la forme des villes, il faut changer les habitudes sociales que les gens ont quand ils prennent leur voiture, changer finalement des schémas d'individualisation. La voiture a beaucoup contribué à l'individualisation. Et de nouveau, décrire un système technique ou décrire une société, c'est les deux mêmes choses.
Pourtant, lorsqu'on voit par exemple les décisions gouvernementales au sujet de la voiture, on décide par exemple d'ici 2040 d'interdire les voitures à moteur thermique, on explique que les villes doivent être fermées aux voitures, bref, on a l'impression que ces décisions, elles sont simples à prendre, qu'on peut les parachuter et vous êtes plus sceptique.
Non, c'est les décisions les plus compliquées qui soient. Parce que justement, ce sont pas des décisions à parachuter, c'est des décisions qui nous concernent tous. Si on vous dit de pas prendre votre voiture, ou si on vous dit de changer votre voiture pour d'abandonner votre diesel, etc., c'est des décisions directement politiques. Donc le problème, c'est qu'on prend des décisions politiques dans un domaine qui n'apparaît pas aussi clairement politique que, je sais pas moi, les élections ou des questions de mœurs. Mais en fait, les questions techniques sont des questions de mœurs, et elles sont essentielles.
Et aujourd'hui, justement, lorsque l'on pose ces questions techniques et que l'on se rend compte, parce que il y a quelques années encore, il y avait énormément de scepticisme vis-à-vis de la crise écologique. Aujourd'hui, ce scepticisme, il s'est en grande partie évaporé. Comment vous expliquez ce basculement, Bruno Latour ?
Je crois pas du tout qu'il soit élaboré. Je pense qu'il est devenu beaucoup plus militant. Les climato-sceptiques sont devenus clairement militants. Il y a des partis entiers, par exemple le parti espagnol d'extrême droite, le parti allemand d'extrême droite, le parti finlandais d'extrême droite, sont tous devenus climato-sceptiques du jour au lendemain. Maintenant que ça mord davantage, vous avez raison, c'est-à-dire que, disons, le gros de la population a maintenant saisi la crise existentielle dans laquelle nous sommes, et du coup ça a comme conséquence directe que les climato-sceptiques, dont je pensais effectivement assez naïvement dans les années 2010 qu'ils auraient disparu en 2019, se sont renforcés au contraire. C'est parce qu'ils voient que maintenant, toute la politique est organisée autour de ce que j'appelle le nouveau régime climatique.
Alors, vous l'expliquez notamment dans Où atterrir, votre ouvrage publié aux éditions de La Découverte, où vous dites finalement que l'élection de Donald Trump et ses vues en matière de climat ont contribué à clarifier le débat. Expliquez-nous pourquoi justement, pour vous, les climato-sceptiques ont aujourd'hui une position politique différente de celle qui était la leur auparavant.
Parce que Trump nous a beaucoup aidés en abandonnant l'accord de Paris, parce qu'il a dit clairement qu'au fond, nous sommes en guerre sur ces questions, et pas du tout une question, disons, de politique à la marge. C'est-à-dire que ce que je proposais il y a deux ans maintenant dans Où atterrir, que la question climatique au sens large, la biodiversité et tout ça, la question d'existentiel et du territoire, était la question qui organisait toutes les positions politiques. Ça paraissait encore un peu bizarre il y a deux ans, mais maintenant c'est parfaitement clair. D'ailleurs, la seule politique cohérente de Trump, qui n'est pas connue pour sa cohérence, c'est d'imposer une réduction des connaissances et sur les questions climatiques au sens large, de demander à la NASA de ne plus s'intéresser à la Terre, mais de repartir sur la Lune et sur Mars, et d'abandonner, dans le sens un peu métaphorique, mais pas tellement métaphorique que ça, d'abandonner la Terre qui est celle dans laquelle nous, les malheureux européens, ou les malheureux chinois ou indiens, nous nous trouvons. Alors, donc c'est une guerre de monde, c'est ça qui est intéressant maintenant.
Justement, Bruno Latour, vous qui avez beaucoup pensé la science, vous qui êtes à la fois sociologue, anthropologue, épistémologue, c'est-à-dire que vous êtes penché sur les conditions de validité du savoir scientifique, a-t-on d'autres exemples d'une théorie qui semble corroborée par un certain nombre de faits et qui a du mal à s'installer? Je pense notamment à la théorie du réchauffement climatique et à ce que vous appelez la résistance des climato-sceptiques.
Je pense qu'il n'y a pas de découverte scientifique qui morde autant sur nos valeurs et sur nos espoirs que celle qui malheureusement n'est plus une théorie de la, du réchauffement climatique. C'est pas d'ailleurs réchauffement climatique, c'est nous agissons, nous collectivement avons agi sur nos conditions matérielles, et ces conditions matérielles réagissent maintenant d'une façon imprévue, pour nous tous en tout cas, à nos actions. Donc c'est plutôt une espèce d'effet de retour. Et si on compare, j'ai beaucoup travaillé sur Pasteur, la découverte des microbes a un peu cette ampleur, c'est-à-dire une découverte absolument fondamentale qui modifie des tas de choses dans la société. Il y a eu des résistances très nombreuses à Pasteur, mais pas des résistances venant des élites intellectuelles, économiques, etc. Bien au contraire. Il y a eu des résistances, il en existe encore d'ailleurs sur la vaccination, etc. Mais ça n'a pas du tout été repris, disons, parce que c'était pas une guerre mondiale. C'était pas une guerre en disant les conditions de production sur lesquelles repose notre société industrielle sont elles-mêmes susceptibles d'agir sur quelque chose d'aussi gigantesque que le climat. Comment voulez-vous que cette vérité scientifique passe aussi rapidement à l'intérieur de notre conscience. C'est-à-dire, c'est normal d'être climato-sceptique en quelque sorte. C'est beaucoup trop gros comme événement. C'est un événement que nous avons de la peine à absorber. On n'a pas de moyen de métaboliser l'idée que les humains sont capables de modifier durablement pour 1 million d'années les conditions dans lesquelles ils sont. C'est une nouveauté qui je pense est plus forte, plus dangereuse aussi politiquement que la découverte des microbes.
Pourtant, ça pourrait servir notre orgueil d'être humain, puisque la différence entre le choc climatique d'il y a 12 000 ans et celui auquel nous assistons aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, nous en sommes directement responsables en tant qu'être humain. Et donc là, on voit que notre pouvoir est tel que l'on peut modifier et peut-être même mettre en danger la planète. Et pour autant, eh bien, aujourd'hui...
notre narcissisme n'est pas assez grand pour dire... Ah, chouette, formidable, je suis capable de saloper la planète. Ça, je pense que ça marche pas. D'autant qu'il y a l'inverse. Parce que, individuellement, on se sent au contraire tout petit. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire de se sentir quand je dis les humains sont responsables du changement climatique? C'est pas ni moi, ni vous, bien que moi et vous en partie. Donc, le problème moral, je crois, c'est pas un problème scientifique, cette affaire. Ça n'est plus un problème scientifique, mais c'est un vrai problème moral, politique et existentiel. C'est qu'est-ce qu'on fait avec notre propre capacité d'agir. Parce qu'évidemment, on pourrait se dire, ouais, c'est formidable, effectivement, on est surhumain, on est capable de transformer la planète. Mais ensuite, individuellement, on se sent minuscule et démuni. On était déjà un peu démuni sur les questions politiques d'autrefois, en disant comment est-ce qu'on va changer la question sociale, comment est-ce qu'on va modifier la question industrielle, etc. Mais enfin, on avait l'impression qu'entre humains, on aurait été capable de résoudre la question. Alors que maintenant, le problème, c'est que les décisions qui ont été prises depuis 50 ans, depuis le début de l'Anthropocène, qui est le nom maintenant officiel, ils ont voté la semaine dernière pour donner ce nom d'Anthropocène à la période qui commence dans les années 50. Depuis cette époque-là, les décisions qui ont été prises nous engagent et nous, on se sent tout petits.
Quelle définition vous donneriez de l'Anthropocène, Bruno Latour ?
L'Anthropocène, il y a une définition stratigraphique, géologique, qui est maintenant votée par le groupe de Leicester en Angleterre. Et qui dit que simplement, si un géologue regardait les rochers dans une dizaine de milliers d'années, il repérerait à partir de 45 assez facilement une transformation profonde, une rupture dans les roches, disons. C'est un argument très bizarre, l'anthropocène. C'est un argument venant de la géologie et donné à la politique et aux sciences sociales. Donc c'est un argument complètement nouveau. Et donc l'argument est très simple, c'est de dire si on regarde maintenant les roches, si on regarde dans le futur les roches de maintenant, on s'apercevrait, on serait sans difficulté que une nouveauté dans la chimie, une nouveauté dans les radionucléotides, une nouveauté dans la suie, etc., permettrait à un stratigraphe, à un géologue de repérer en disant ah là il s'est passé quelque chose radicalement différent, aussi radicalement différent que d'autres époques, comme les autres époques géologiques, qui est définie par des transformations qui, cette fois-ci, ne sont pas dues aux humains, qui sont dues à des météores ou qui sont dues à des nouveaux fossiles, etc. Donc c'est un principe de repérage. Alors il se trouve que cette découverte géologique, car c'est bien une découverte, c'est une façon de rassembler toute une série de découvertes, a passionné pour d'excellentes raisons les sciences sociales, les citoyens, les écologistes, etc. Parce que ça dit, les humains sont parfaitement capables de marquer une époque géologique et de transformer les situations, y compris celles du climat. Mais ce qui est amusant, c'est que tout le monde comprend bien que sur la biodiversité, on voit bien que les humains sont capables de faire toutes ces transformations, hein. Mais sur le climat, c'était quand même pas évident de penser qu'on en était capable. Et c'est ça que marque la notion d'anthropocène.
Alors, il y a différentes attitudes vis-à-vis de cet anthropocène. Il y a une attitude qui a largement confiance en la science et qui se dit finalement, Bruno Latour, l'humanité s'en est sortie jusqu'ici, on va s'en sortir, on va trouver une solution scientifique. Qu'en pensez-vous ?
Ben, j'espère. Je crois qu'on a tous envie de trouver une solution scientifique. Mais, mon ami Marc Robert... Les Suisses de Zurich commencent à trouver des méthodes pour absorber le CO2 et produire du méthanol par des transformations chimiques à température ambiante. Il faut bien sûr multiplier toutes les possibilités scientifiques pour se sortir de cette affaire.
Là, alors ça veut dire que dans ce cas-là, on pourrait s'en sortir sans modifier finalement nos modes de vie ?
Ah, ça c'est une espérance que je ne partage pas, mais on voit bien évidemment qu'elle est tentante. Ne rien changer est évidemment la tentation. C'est assez amusant d'ailleurs, parce que c'est les gens qui sont plutôt adeptes du progrès qui maintiennent cette idée. Donc l'idée que justement on ne doit rien changer à la façon dont on produit l'agriculture, l'industrie, l'internet, etc. est évidemment très forte. La tentation de ne rien changer et de trouver, comme disent les Américains, un technological fix est très forte. Mais ça c'est la version, disons, géo-engineering. Mais il y a une version beaucoup plus intéressante, à mon avis, qui est la masse extraordinaire d'innovation dans laquelle il va falloir rentrer, comme celle dont je parle là, pour se sortir de la situation et réapprendre à prospérer, et non pas simplement ni à régresser ni à progresser, mais prospérer, je pense que c'est un terme important, mais qui demande des changements de détail dans la variété de nos systèmes techniques. Et c'est là où il y a quelque chose de très intéressant. Dans la période actuelle, est-ce que les systèmes techniques qui ont été inventés dans la période, disons, depuis l'électricité, dont vous parliez au début, parce que c'est le début des grands réseaux, disons, est-ce que ce mode de construction par grand réseau de systèmes techniques peut être modifié durablement, étant donné les décisions qui ont été prises depuis 50 ans ? Et donc, ça, l'énorme avantage et l'énorme progrès qu'il faut faire subir aux sciences et aux techniques n'a rien à voir avec l'argument suivant. Donc on n'a rien à changer, parce que là il y a un embranchement qui serait effectivement très dommageable. Ça voudrait dire que les sciences et les techniques sont même pas capables de nous pousser à changer nos modes de vie. Donc là ça serait une espèce d'abandon de se fier à un destin inéluctable, qui est quand même assez peu démocratique.
Mais alors pour autant, qu'y a-t-il de plus compliqué à changer qu'un réseau ? On parlait des réseaux électriques tout à l'heure, parce que des réseaux électriques en Amérique du Sud tombent en panne, et on ne sait même pas encore exactement où se situe la panne. Et là, c'est le réseau tout entier de notre système énergétique, notamment, qu'il faut changer, Bruno Latour.
Oui, mais ça, tout le monde est en train de le changer. Je veux dire, tout le monde est déjà en train d'imaginer les alternatives. C'est pour ça qu'il ne faut pas engager la question « on va trouver des solutions techniques ». Donc il faut rien changer à nos habitudes. Je pense que là c'est un non sequitur dont il faut se garder. C'est au contraire l'occasion qui nous est donnée de multiplier les innovations. Donc en fait ce vieux thème de l'innovation qui était assez années 60, disons, il peut revenir mais différemment.
On va continuer d'en parler, de ce thème de l'innovation, du progressisme aussi. Je vous demanderai également votre point de vue sur la situation politique en France, car vous avez beaucoup étudié la manière dont les hommes peuvent négocier, converser, fabriquer des choses ensemble ou les détruire. Bruno Latour, Où atterrir et Face à Gaïa, deux livres publiés aux éditions de La Découverte. Vous serez avec nous dans une dizaine de minutes. Il est 8h, bon réveil sur France Culture. Nous retrouvons notre invité Bruno Latour, sociologue, anthropologue. Vous avez notamment publié Face à Gaïa aux éditions de La Découverte. Votre regard de sociologue, d'anthropologue sur la politique telle qu'elle se fait, sur les duplicités de nos hommes politiques, sur la volonté d'Emmanuel Macron d'en découdre avec les inégalités d'un capitalisme devenu fou, comme il l'a déclaré à l'étranger.
Je ne suis pas du tout politiste et Dieu merci, je n'ai pas à commenter l'écume politique et le mépris que nous avons pour les politiques est un crime en même temps qu'une espèce de péché. Se moquer des politiques, c'est ne rien comprendre à la politique, et c'est beaucoup trop facile. Donc je ne me permets pas de rentrer dans cette façon de considérer. Le problème, c'est que tous ces gens sont affrontés à une transformation existentielle d'une telle dimension que je crois qu'il faut essayer de comprendre plutôt la situation, plutôt que, disons, les choses qui viennent jour par jour. Or, la situation, elle est quand même assez claire. Une civilisation industrielle entière s'aperçoit qu'il faut changer de sol, en quelque sorte, d'où l'expression de « où atterrir ». Une civilisation entière qui s'était en fait détachée de ses conditions matérielles, ou qui imaginait que ces conditions matérielles ne comptaient pas, se retrouve, comme je le dis souvent, à regarder par le hublot où est-ce qu'on va atterrir. Donc le sérieux de cette situation doit prévaloir sur toutes les évaluations, disons, superficielles des médias. Et tout le monde y est affronté, aussi bien Macron que Mélenchon, que Marine Le Pen, que Poutine, que Trump, etc.
Puisque vous en parlez dans « Où atterrir », il est notamment question de Donald Trump.
Oui, parce que ce qui est intéressant, c'est pour ça que je pense que la situation politique devient au contraire plus sérieuse et mérite qu'on la traite plus sérieusement maintenant, c'est que tout le monde sent bien qu'il ne s'agit pas simplement de continuer une histoire humaine. Il s'agit de continuer une histoire humaine à l'intérieur d'une situation où les civilisations industrielles ont été capables de modifier leurs conditions d'existence. Donc ça, c'est plus intéressant en quelque sorte. C'est un peu comme si on avait à réinventer l'opération socialiste du 19e siècle, si on veut, c'est-à-dire le moment où il a fallu comprendre qu'est-ce que la société industrielle faisait aux valeurs de la société libérale du 18e siècle, mais maintenant un coup suivant, en quelque sorte, pas simplement qu'est-ce que l'industrie et qu'est-ce que l'organisation industrielle fait à la politique classique, mais qu'est-ce que les conditions d'existence matérielle font à la politique. Et ça change tout.
Deux collaborateurs d'Emmanuel Macron ont publié un livre où ils souhaitaient associer, éclairer la politique d'Emmanuel Macron par le terme de progressisme. Qu'est-ce qui veut dire pour vous ce mot de progressisme, Bruno Latour?
Le progressisme, c'est pour un anthropologue comme moi l'équivalent du culte du cargo dans la tradition anthropologique, c'est-à-dire des gens qui, voyant qu'ils ne peuvent plus profiter d'une espèce de source infinie de progrès, espèrent son retour. Et on continue à prier, disons, ou à faire des gestes ou des rituels, comme les paroles peut-être que nous avons entendues, en attendant que la prospérité revienne. Mais évidemment, tout le monde sait que c'est impossible et qu'il faut passer de la notion de progrès, qui était une notion elle-même très chargée en théologie, chargée en économie, chargée en décisions financières, etc., à quelque chose qui est plutôt ce que j'appelle, évidemment, ça n'a pas le même sens, mais atterrissage sur nos conditions matérielles d'existence. Donc c'est quand même assez différent du progrès. Le progrès supposait une assez large marge d'indifférence au futur, en quelque sorte, bizarrement. Le progrès ne s'intéressait pas au futur. Personne ne nous a jamais expliqué, moi j'ai 72 ans, donc j'ai connu la période progressiste, en quelque sorte. L'ambiance progressiste, personne ne nous a jamais expliqué que quelle allait être la température lorsqu'on allait avoir un niveau de vie à l'américaine. Personne ne nous a jamais expliqué quelles étaient les conditions du CO2. Personne ne nous a jamais expliqué les conditions matérielles. L'étrangeté de notre situation, l'étrangeté de la découverte actuelle, c'est de s'apercevoir que tout ce mouvement progressiste était très peu matérialiste, finalement, parce qu'il était très ignorant des conditions réelles. Très peu de gens sont sensibles aux conditions réelles d'existence, au fait que, disons, c'est ce que les écologistes ont avec justesse au début découvert. C'est-à-dire, attendez les gars, il y a des tas d'autres conditions pour progresser. Il faut des tas de conditions matérielles qui sont liées au sol, qui sont liées à l'air, qui sont liées à l'eau, qui sont liées à toutes ces conditions, dont on savait vaguement qu'elles comptaient, mais elles comptaient précisément sous un mode comptable. Elles comptaient comme ressources et non pas comme conditions d'existence. Donc elles ne comptaient pas comme territoire. Et la grande transformation actuelle, c'est que les sociétés industrielles qui progressaient, disons, à l'infini, sans se préoccuper de trop où elles allaient, regardent par le hublot et se disent « il va falloir atterrir sur ces conditions d'existence ». Or, ces conditions d'existence, nous ne les connaissons pas.
Mais on a l'impression, Bruno Latour, que aujourd'hui, ce progrès, il nous a conduit, non pas dans une impasse, mais en tout cas, il nous a fait prendre de mauvaises décisions. Était-ce un mauvais progrès? Est-ce le progrès en soi qui pose problème?
Non, c'est que les humains n'ont pas de capacité d'anticipation. On n'est pas fait pour ça, on n'est pas fait pour anticiper des situations. On s'aperçoit de nos erreurs et le crime, disons, ou le péché, je ne sais pas comment il faut l'appeler, c'est de ne pas réagir vite aux conséquences inattendues de nos actions. Mais on ne peut pas imaginer que les gens qui ont voulu le développement dans les années du 19e siècle, au 18e, au 17e, et même au début, au milieu du 20e, que tous ces gens se sont trompés. Ils ne se sont pas trompés. Ils ont été de l'avant. Mais là où la chose se corrompt, là où il y a quelque chose qui est grave, c'est quand vous voyez les conséquences inattendues de vos actions, quand vous voyez les sols qui disparaissent, quand vous voyez les villes qui sont menacées par la montée des eaux, de ne pas réagir. Et là, c'est persévérer et satanique au sens propre. Il y a quelque chose de satanique dans cette situation-là. Donc c'est pas du tout le progrès lui-même. Il y a un moment où les conditions matérielles se sont transformées à un point extraordinaire et où on n'a pas réagi. Et c'est là où je réintroduis Trump, parce que là, il y a une situation tout à fait nouvelle, c'est de dire, au lieu de dire réagissons à cette situation et modifions autant que possible, et il n'y a aucune responsabilité, enfin il y a de la responsabilité, mais il n'y a pas à revenir en arrière en disant ils se sont trompés, il n'aurait pas fallu développer, etc. Ça c'est complètement idiot. Non, mais par contre, dénier la situation et dire non, il n'y a aucune conséquence inattendue des actions, que ce soit sur la situation des sols ou sur la situation des villes ou sur la situation industrielle ou sur la situation de pauvreté, ça c'est tout à fait autre chose. Donc c'est progrès doit être en quelque sorte analysé comme un moment, ça a été un moment de mouvement et une idée de développement indéfini qui n'a évidemment aucun sens. Maintenant on s'en aperçoit, la question c'est est-ce qu'on réagit plus ou moins vite. Et là c'est pas de faire un tribunal sur le passé, c'est de dire pourquoi est-ce qu'on ne réagit pas plus vite.
Et justement, lorsqu'il est question donc aujourd'hui des périls qui nous menacent, alors certains pensent que la fin du monde à brève échéance, Bruno Latour, est inéluctable. Il y a de plus en plus de gens qui donnent dans ce qu'on appelle la collapsologie. On entend même des dates, on dit voilà, 2050. Qu'est-ce que vous en pensez de cette ambiance-là?
Non, moi il se trouve que je connais assez bien les textes religieux pour savoir que quand on parle de fin du monde, on parle de tout à fait autre chose, qui n'a rigoureusement rien à voir avec un effondrement, avec effet hollywoodien et désastre dans le genre du film Le Monde d'après. C'est le sentiment qu'il faut changer, ça c'est une vertu. Les illusions sur la fin du monde et les effets spéciaux à la Hollywood, je pense que c'est quelque chose dont il faut se protéger au contraire, parce que évidemment ils dépolitisent. Le fait, si on vous dit la fin du monde est pour demain, vous n'allez pas vous mettre à modifier votre diesel ou modifier la façon dont vous travaillez, etc. Alors que si vous êtes affronté à la question, mais c'est un autre débat, c'est un débat, une question profondément religieuse, à la question de ce qu'on appelle l'apocalypse au sens propre, ça donne tout à fait d'autres sentiments. Donc la collapsologie, c'est l'inverse, disons, de l'apocalypse. C'est une vision laïque et au fond apolitique d'une situation intérieure qui, elle, par contre, est tout à fait nécessaire. Quand vous entendez la petite Greta Thunberg faire partager sa tragédie ou son émoi devant la situation, il faut pas lui répondre en disant donc c'est la fin du monde et on arrête les choses. Il faut au contraire passer à l'action. D'ailleurs, c'est ça la demande de tous ces jeunes qui se manifestent. C'est pas de dire c'est la fin du monde, on arrête comme Philippidus le prophète dans l'étoile mystérieuse de Verger. C'est pas du tout ça. C'est au contraire dans quelle situation morale vous devez vous trouver pour commencer à agir. Et effectivement, la situation morale, par contre, elle est très importante. Elle n'est pas liée à cette notion de progrès en disant bon bah finalement ça va s'arranger. Continuons, ayons de l'espoir, etc. C'est l'opposition faite par un de mes amis philosophes, David Clive Hamilton, qui est très intéressante, c'est sur la distinction entre l'espoir, disons, et la certitude de l'apocalypse. Je pense qu'il y a un sentiment très profond. L'espoir, en disant, c'est comme les malheureux qui passent en ce moment les examens et qui disent « bon, j'ai fait l'impasse, mais j'espère que je vais m'en tirer ». En disant bon bah on a fait plein de bêtises mais on va peut-être arriver à se développer quand même, on va trouver une solution technique, ça c'est le mauvais espoir en quelque sorte. Et puis il y a un bon espoir en disant oui, la situation est grave, oui on est dans une situation tragique, tout le monde enfin en fond, et c'est le résultat à mon avis des dernières élections, tout le monde entend que la question climatique au sens large c'est ce qui organise la politique dorénavant pour le siècle qui vient. Donc on redevient sérieux, la politique redevient sérieuse. Et en même temps, maintenant je peux agir. Donc il y a un mauvais espoir et un bon espoir en quelque sorte. Et le bon espoir n'est pas fondé sur l'idée du progrès, il est fondé sur quelque chose que j'appelle prospérité, c'est-à-dire l'idée qu'on doit réapprendre à prospérer, mais ça suppose qu'on est atterri, c'est-à-dire qu'on soit enfin conscient des conditions matérielles d'existence, qu'on appelait autrefois l'écologie, mais c'est plus un problème écologique, c'est pas des trucs verts. C'est un problème de au fond qui est très semblable à ce qu'a été le marxisme à la fin du 19e siècle. Il faut décrire les conditions d'existence industrielle, disaient les marxistes, contre, disons, les versions philanthropiques. C'était très intéressant de comparer avec le 19e siècle. Avant que les socialistes s'emparent sérieusement de la question de la description de nos conditions matérielles, tout le monde se disait, oui, c'est vrai, il y a un problème avec les pauvres, oui, il y a un problème social, etc. On va le traiter, je m'occupe bien de mes ouvriers, ou bien je donne de l'argent à des charités nombreuses, etc. Avant qu'on se dise, non, attendez, c'est une question un peu plus sérieuse, il s'agit de décrire la société industrielle et de voir comment elle marche pour pouvoir atterrir, justement. Ça, c'est la version du 19e siècle, autour d'une notion très importante qui était celle de production. Un siècle et demi après, on se retrouve dans la même situation. Il y a les trucs verts, c'est-à-dire ce qu'ont été les partis écologistes jusqu'ici, c'est l'équivalent, disons, de la philanthropie. C'est-à-dire, oui, ben, les gens disent d'ailleurs ça encore maintenant, je prends moins l'avion, je trie mes déchets, etc. Et ça, c'est très important, il faut le faire, mais maintenant, il faut passer à la chose sérieuse. Et la chose sérieuse, c'est la redescription de nos conditions d'existence. Et ces conditions matérielles d'existence, c'est de ça dont il s'agit maintenant. Tout le monde sent bien que c'est ça qui est en question, sauf qu'on n'a pas encore une nouvelle définition qui soit l'équivalent de ce qu'a été le marxisme au XIXe siècle. C'est-à-dire quelles sont les conditions, quel est le système, qui n'est plus un système de production, c'est un système de prospérité, mais un système qu'il faut inventer de début à la fin, qui nous permet de survivre, tout simplement. C'est des questions de survie. Ce qui est très frappant dans les manifestations des petits jeunes, évidemment, il y a à boire, à manger dans toutes ces manifestations, mais il y a quelque chose de très émouvant, je trouve, qui est le sentiment qu'il s'agit d'une question de continuité de la vie, disons. Et pas simplement de la vie des humains, de la vie de toutes les êtres avec lesquels les humains doivent collaborer.
Alors, vous dites qu'il faut prendre les politiques au sérieux, mais vous les trouvez à la hauteur, je veux dire, à la hauteur des enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui, Bruno Latour ?
Oui, mais ce n'est pas leur boulot. Leur boulot, un politique, il suit ce que nous faisons. Un politique, c'est l'écrémage d'une vie plus ou moins intense de la société civile. La politique et l'État sont toujours en retard d'une guerre, en quelque sorte. Pour le moment, il faut reconnaître que s'ils ne sont pas bons, c'est que nous ne sommes pas nous. Et cette injustice continuelle de la critique et du cynisme vers les politiques m'a toujours déplu, parce que c'est une espèce d'erreur sur ce que c'est que la politique. Les politiques, la classe politique, ne peut que écrémer ou se servir d'une vie civile que nous faisons. Et si nous ne le faisons pas, c'est sans espoir qu'ils le feront. C'est comme les Gilets jaunes qui continuent 6 mois, 8 mois après le début de leur manifestation à demander, comme seul, finalement, élément de plateforme, la démission de Macron. C'est insensé. Qu'est-ce que vous voulez que Macron, une fois démissionné, qu'est-ce qui aura changé ? Rien du tout. Par contre, qu'ils s'emparent eux-mêmes de la description de leurs conditions d'existence, alors là, ça change tout.
Donc la politique... Qu'est-ce qui pourrait faire les Gilets jaunes qui étaient encore, pour ceux qui demeurent dans la rue, qui étaient encore dans la rue samedi dernier, Bruno Latour ?
Certainement, beaucoup d'autres le font. J'ai malheureusement pas suivi en détail les manifestations diverses, mais ils font ce qui a été fait au 19e siècle sur la question sociale, c'est-à-dire décrire les conditions matérielles. À l'époque, au 19e siècle, c'était des conditions matérielles industrielles. Maintenant, c'est des conditions qu'on appelle écologiques, mais qui sont en fait des questions de territoire et de survie. Décrivez vos territoires, décrivez ce dont vous dépendez, décrivez ce qu'il faut changer. Et surtout, n'attendez pas de l'État ou des politiques une modification quelconque de cette situation. L'État, par définition, c'est le mot lui-même, il traite les questions qui sont des questions antécédentes, les questions de la période précédente. L'État français est relativement bien adapté aux conditions qui ont été celles de la reconstruction après la guerre et de la modernisation pendant la période jusque dans les années 80. Mais depuis les années 80, la disparition des partis le prouve. On voit bien toute la question politique n'est pas adaptée. Mais attendre que, je ne sais pas, des partis, des directeurs de partis géniaux émergent, ou qu'un président extraordinaire émerge, c'est insensé. Ça n'a jamais été comme ça que la politique se fait. La politique ne fait que se saisir d'une intense vie politique de la société civile. Et évidemment, là, on s'aperçoit du retard que nous avons par rapport au 19e siècle. Quand les grands partis socialistes se mettent à émerger, il y a 80 ans d'agitation, de réflexion, une multiplicité de travaux qui vont aussi bien des intellectuels aux activistes. Aujourd'hui, si on dit qu'est-ce qu'il faudrait pour nourrir une politique au niveau de l'État, vous vous dites, il y a quelques partis écologistes, il y a une extraordinaire vie militante, mais c'est pas suffisant encore pour passer à autre chose.
Vous estimiez il y a quelques mois, Bruno Latour, qu'il pouvait y avoir des effets tout à fait positifs au grand débat, le grand débat national organisé par Emmanuel Macron suite à la mobilisation des Gilets jaunes. Avez-vous été déçu, satisfait de la manière dont celui-ci s'est déroulé?
Non, le grand débat, c'était un coup d'épée dans l'eau extraordinaire, puisqu'on n'a pas du tout demandé aux gens de décrire leur territoire et de décrire où est-ce qu'ils allaient atterrir. On leur a demandé leurs opinions ou quelles étaient leurs valeurs. Mais les opinions des gens et les valeurs des gens, c'est ce qu'on fait avant l'enquête, avant la description des conditions d'existence. Ça n'a rien à voir avec ce que moi j'avais proposé. Mais évidemment, je suis tout seul dans mon coin.
Un micro, beaucoup d'outils.
C'était les cahiers la reprise de la grande tradition des cahiers de doléances, qui là c'est tout à fait différent. C'est les gens décrivent leur situation et les injustices qu'ils ont commises et le décrivent collectivement et votent collectivement, votent à l'unanimité. Il faut se le rappeler. Au moment des cahiers de doléances de 1789, ils votaient à l'unanimité leur description de leur territoire sur lequel ils allaient vivre et des injustices qui étaient commises. Donc c'est tout à fait différent de dire qu'est-ce que vous pensez d'eux. Si vous me demandez à moi qu'est-ce qu'il faut penser de la taxe carbone, je vous donnerai mon opinion qui ne sert rigoureusement à rien, que je n'ai pas plus d'opinion que c'est nécessaire. Si vous me demandez de décrire les conditions d'existence qui font que je pense que ce dont je dépends et ceux qui, sans moi, risqueraient de disparaître, ça c'est tout à fait autre chose. Donc le grand problème, c'est que pendant ce débat, et maintenant on recommence avec un débat citoyen de 150 citoyens triés sur le volet, qui ont été choisis au hasard, et on n'aura pas plus de résultats que le grand débat. C'est-à-dire qu'on n'a aucune description de la situation. Nous ne savons pas ce que c'est qu'une société industrielle qui redécouvrirait ses conditions matérielles d'existence. Personne ne le sait. Pas plus Macron que les Gilets jaunes.
Et justement, si ces conditions d'existence aujourd'hui devraient être décrites, il y a aussi malgré tout des sacrifices qui devraient être faits, puisque cet épisode des Gilets jaunes a débuté suite à une colère vis-à-vis...
Oui, ça c'est bien, c'est le moment positif, c'est-à-dire sur une question écologique, on s'aperçoit que c'est une question de justice sociale.
Justement, le hiatus qui parfois est fait entre fin du monde et fin de mois, qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, mais c'est la question essentielle. Pierre Charbonnier, dans un article du Monde la semaine dernière, montrait ça très bien. Tout le monde est en train de s'apercevoir que c'est ça la question essentielle. C'est ce que je traduis en disant, c'est la réinvention d'une forme de ce qui s'est passé avec le marxisme, finalement, ou l'invention du socialisme scientifique, disons, si on peut dire, entre guillemets. La question, au 19e siècle, c'était quelles sont nos conditions industrielles d'existence. Maintenant, c'est quelles sont nos conditions d'existence tout court. Pas simplement de production, mais d'existence. Donc la question se pose de façon assez claire. Maintenant, tout le monde se dit, oui, on a bien compris, l'écologie, c'est pas des trucs verts à côté, c'est des questions de justice sociale. Mais ces questions de justice sociale, on va pas les traiter en mélangeant, je sais pas, Mélenchon d'un côté et Jadot, par exemple, pour prendre un exemple, en disant, bon, entendez-vous votre parti, une version socialiste et une version écologiste. Et ça, l'argument de Charbonnier est très important dans le monde, parce que, évidemment, ça veut dire, non, vous, les socialistes, redéfinissez ce que vous appelez la question sociale, et vous, les écologistes, enfin, sortez de vos trucs verts et commencez à décrire les conditions d'existence qui sont des conditions, et c'est ça le terme que j'utilise toujours, de territoire. C'est-à-dire, quelle est la terre sur laquelle, au sens terre, T majuscule, mais aussi terre au sens terroir, ou au sens, dans tous les sens que vous voulez, sur laquelle vous allez dorénavant appuyer la continuation de l'existence industrielle, peut-être pas l'existence humaine. Les humains continueront, et c'est pas les humains qui sont en question, naturellement, mais c'est les sociétés industrielles qui sont en question. Donc, la situation, elle est en un sens, c'est ça qui est paradoxal, elle est extraordinairement intéressante du point de vue politique en ce moment. Ce qui s'est passé dans la dernière année, c'est absolument passionnant. Et en même temps, cette situation passionnante, elle est mal saisie, je dirais, par évidemment les partis politiques et en grande partie par les médias.
Pourquoi?
Alors qu'au fond, tout le monde a déjà changé.
Qu'est-ce que les médias devraient faire? Les médias, on a beaucoup parlé des politiques. Mais...
Les médias continuent à s'intéresser à des trucs qui ne présentent aucune espèce d'intérêt. Comme,
par exemple
L'écume de la vie politique superficielle. Alors qu'au fond, tout le monde a déjà changé. Tout le monde sait bien qu'il va falloir atterrir. Et donc, la question de la description, les médias devraient être, comme d'ailleurs les systèmes de recherche, c'était un de mes dadas, les universités, c'est l'ensemble du travail de redescription de nos conditions d'existence qui devrait mobiliser les médias. Et non pas critiquer les politiques, parce que de toute façon, critiquer les politiques, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent les politiques? Ils ne font jamais à l'échelle d'un changement aussi important qu'un changement de régime. Quand je dis nouveau régime climatique, je l'entends bien, un nouveau régime, c'est une transformation très profonde. Et c'est pas la peine d'aller regarder ce qui se passe au niveau superficiel de la politique. Par contre, ce qu'il faut regarder, c'est ce qui va devenir la politique du siècle, du milieu du siècle. Et ça ne dépend pas des politiques, ça ne dépend pas des médias, ça dépend de la société civile. Et si la société civile s'organise d'une autre façon, c'est-à-dire si elle se met à se décrire elle-même, et non pas être interrogée par le grand débat « qu'est-ce que vous pensez d'eux ?» parce que ce qu'on pense d'eux, c'est toujours superficiel, mais est-ce que vous êtes prêt à enquêter, comme nos ancêtres l'ont fait en 89 quand même? Ils l'ont fait de façon extraordinairement efficace en quelques mois.
Bien sûr.
Ils ont été capables de redécrire leurs conditions. Et il faut pas oublier quand même que la description des cahiers de doléances, ça redéfinit l'État, l'administration française pour un siècle.
Et alors, puisque vous pensez que les médias devraient changer leur mode de travail, les scientifiques aussi devraient le faire, dites-vous? Qu'est-ce qu'ils pourraient...
Les scientifiques, disons du côté de sciences naturelles, ont déjà beaucoup changé leur pratique, puisque eux, ils sont engagés dans cette polémique énorme sur le climat, et ils ont beaucoup appris ce que ça veut dire d'avoir des faits scientifiques qui sont aussi des énoncés, non pas de politique exactement, mais en anglais on dirait de policy, c'est-à-dire de propositions. Si on vous dit que le CO2 est à 440, a dépassé 440 par million, ça vous dit quelque chose ça vous dirait quelque chose sur ce qu'il faut faire. Donc les scientifiques naturalistes, disons, au sens large, ont beaucoup déjà changé, en tout cas ceux qui s'occupent de la Terre, hein, de la surface de la Terre, ce que j'appelle les zones critiques. Reste que les sciences sociales, et en particulier l'université, continuent à travailler à l'ancienne, en quelque sorte, alors qu'elles devraient être en soutien. Normalement, les gilets jaunes devraient être accompagnés par, non pas simplement étudiés par tout un tas de sociologues, mais accompagnés par une assez large... quantité de chercheurs qui les aident à décrire. C'est l'aide à la description que les sciences sociales doivent être capables de faire. Et évidemment aussi, ça je suis tout à fait d'accord, il faut profiter de l'énorme masse de connaissances des géographes, des urbanistes, des géologues, des agronomes, dont il faut se profiter pour décrire le territoire. Mais la description du territoire, il n'y a que les gens qui sont dessus qui peuvent le décrire. Il n'y a que cette opération d'autodescription qui est absolument essentielle. Et c'est pas en demandant leur opinion, et surtout c'est pas en demandant aux gens quelles sont vos valeurs. Parce que nos valeurs, on les définit, mais regardez ce qui s'est passé avec le Brexit. Le Brexit, pour moi, c'est l'événement fondamental.
Pourquoi ?
Parce qu'il y a 3 ans, on demandait une question, est-ce que vous voulez sortir ou pas de l'Europe en forme d'identité ? Donc on vous demandait votre opinion. 3 ans après, si on demande aux gens, ils vont pas parler simplement en termes d'opinion, ils se sont aperçus, du moins la plus grande partie, que de l'Europe dépendait toute une multitude de conditions d'existence, de nouveau, de législation, d'économie, d'écologie, dont ils ne peuvent pas se passer. Donc on est passé en 3 ans d'une vision tout à fait abstraite d'un corps, d'une Angleterre abstraite, au nom de l'identité, de l'opinion et des valeurs, et maintenant on passe. Et c'est cette opération-là qu'il faut faire en France.
Le sociologue Bruno Latour est avec nous. Vous avez notamment publié « Où atterrir à la découverte » et « Face à Gaïa » également aux éditions de la découverte.